Bonjour, quelle joie de vous retrouver. Je vous propose une petite escapade sur les pas de Saint Paul, parce que ouais, voilà, ça m'a inspiré depuis le début du temps pascal. Nous lisons l'évangile de Saint Jean et les actes des apôtres. Et je me suis demandé bah, quels étaient les personnages que nous pourrions essayer de connaître un peu plus ou de découvrir ou dont nous pourrions jouir de la présence. Et voilà, je vous propose de vous emmener sur les pas de Saint Paul dans les Actes des Apôtres, le chapitre que nous sommes en train de lire, mais parce que c'est son entrée en Europe. Nous sommes au chapitre 16 des Actes des Apôtres, et voici que Paul va entrer en Europe, mais peut-être que les choses ne sont pas complètement claires dans notre esprit. En tout cas, j'avoue que moi-même, j'ai été heureux d'aller replonger sur une carte, par exemple, pour bien mesurer ce que Paul avait fait, et puis essayer de situer sa démarche et de comprendre comment il a été accueilli et par qui. Et donc, nous l'avons annoncé tout à l'heure, il s'agit de Lydie et d'un autre personnage dont nous avons peut-être le nom, mais nous ne le savons pas. Nous savons qu'il était geôlier de profession. Il était le gardien de la prison dans la ville de Philippe. Et voici que ces deux personnages sont ceux qui ont accueilli l'évangile de la parole de Paul en Europe, les premiers. Alors pour cela, il faut que nous nous remettions dans la dynamique du voyage de Saint Paul. Et donc, Paul reprend la route après le concile de Jérusalem. Voilà, on nous dit simplement, après qu'il soit rentré à Antioche, Paul et Barnabé demeurèrent à Antioche, en compagnie de beaucoup d'autres encore, ils enseignaient et annonçaient la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Après un certain temps, Paul dit à Barnabé, retournons donc visiter les frères dans chacune des villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, nous verrons où ils en sont. Barnabé voulait emmener aussi avec eux Jean, appelé Marc, mais Paul n'était pas d'avis de reprendre comme compagnon un homme qu'ils avaient quitté en Pamphylie et qui n'avait donc pas partagé leur travail. Leur désaccord s'aggrava tellement qu'ils partirent chacun de leur côté. Barnabé prit Marc avec lui et s'embarqua pour Chypre, tandis que Paul s'adjoignait Silas et s'en allait, remis par les frères à la grâce du Seigneur. Alors ici, ça va, je ne sais pas à quoi c'est dû, mais en tout cas, peut-être à la répartition des deux compagnons. Nous remarquons d'abord qu'ils partent chacun avec un compagnon, Marc avec Barnabé et Silas, donc un nouveau qui est introduit maintenant, avec Paul. Alors que au premier voyage, ils étaient partis d'Antioche, ils s'étaient embarqués pour Chypre, et de Chypre, ils avaient pointé plein nord sur la côte qui est aujourd'hui turque pour aller à Pergé, puis pardon, à Attalia, puis ensuite Antioche de Pisidie, Iconium, Lystre, Derbé. Et ils étaient revenus par le même chemin après avoir fait cette découverte. Et c'est le sujet qui m'intéresse en allant poursuivre ces personnages, ces deux personnages qui vont accueillir l'évangile de Jésus-Christ en Europe, c'est finalement qu'est-ce que leur a annoncé Saint Paul? Et donc qu'est-ce qui les a touchés? Comment se fait-il qu'ils aient été touchés et de la façon aussi simple, directe, qui nous est décrite dans les Actes des Apôtres et qui nous vaudra la lettre aux Philippiens, la lettre la plus chaleureuse de toutes les lettres de Paul. Donc ceci pour situer que nous nous posons deux questions. Comment ces gens ont accueilli si bien et finalement, qu'est-ce que Paul leur disait? Ici donc, ils étaient revenus sur leurs pas pour affermir les frères, car à l'aller, Paul avait annoncé Jésus est bien le Messie. Et il l'avait fait, nous l'avons relu récemment dans ce premier discours de Paul à la synagogue d'Antioche de Pisidie, un discours plein de paix. Il n'y a aucune agressivité à l'égard des Juifs. Il leur dit simplement, mais voilà, le Seigneur nous a envoyé le Messie. Ceux de Jérusalem ne l'ont pas reconnu, mais voilà, ils l'ont fait mettre à mort, mais le Seigneur l'a ressuscité. Et c'est à nous qu'est confié le fait de croire en ce Messie qui est non seulement venu, mais qui est ressuscité, qui est donc vivant pour toujours. C'est à nous qu'est confié la mission de l'accueillir. Il y a donc une, il le dit, sans aucun reproche à l'égard ni de ses frères de Jérusalem, ni de ceux auxquels il s'adresse à ce moment-là. Moyennant quoi, le succès est beaucoup plus fort parmi les païens que parmi les juifs, et Paul va aller d'Antioche de Pisidie à Iconium, puis Lystre et Derbé, à chaque fois chassé par une émeute, les juifs le font chasser. Et il décide de revenir sur ses pas. Et quand il revient, il leur dit simplement, il nous faut passer par beaucoup de tribulations pour entrer dans le royaume de Dieu. Donc à la fois, le Seigneur nous a donné son royaume avec le Messie, puisque c'est le Messie roi, mais pour nous, pour y entrer, il nous faut passer par des tribulations. Et c'est donc vers ces frères qui ont reçu la première annonce, mais auprès desquels Paul n'a pas pu rester longtemps, il a pourtant institué des anciens, et c'est le souci de cela qui pousse Paul à ce deuxième voyage. Et alors que Barnabé décide de reprendre le même chemin, c'est-à-dire Chypre, puis le port d'Attalia, et ensuite remonter vers Antioche, et ensuite vers Iconium, Lystre et Derbé, eh bien Paul, qui est originaire de Tarse, on se le rappelle, en Cilicie, donc de la partie au nord d'Antioche, qui est en fait, Tarse est à mi-chemin entre Antioche et Derbé, mais par la terre. Et donc, Paul va partir par la terre, alors que Barnabé part par la mer. Il repasse donc sur ce chemin à Derbé, puis Lystre, Iconium, et c'est là, à Lystre, que Paul s'adjoint Timothée. Ils sont donc non plus deux, mais trois. Donc Timothée, Paul et Silas. Ils vont à Antioche de Pisidie affermir les frères. Et puis de là, ils avaient l'intention d'aller en Asie, c'est-à-dire en fait vers Éphèse. Et voilà que le Seigneur ne leur permet pas. Et donc, on ne sait pas comment. Ils pensent aussi à aller en Bithynie, c'est-à-dire le nord, la côte sud de la mer Noire, un lieu dans lequel il y aura des chrétiens, puisque c'est Pline le Jeune sera proconsul, gouverneur de la Bithynie, et écrira à son empereur pour lui demander, et nous fera une première description des chrétiens au 1er siècle, un peu plus tard. Donc, mais ce n'est pas Paul qui les a institués, puisque l'Esprit de Jésus s'y est opposé. Et donc, puisque l'Esprit de Jésus les en empêche, ils se dirigent vers la côte, encore plus vers l'ouest. Ils arrivent à Troas, c'est-à-dire probablement la ville de Troie, dont on parle dans l'Iliade et l'Odyssée. Et là, ils sont au bord de la mer, au bord de la mer qui est la mer Égée. Et il faut ici que nous nous figurions cette mer. J'avoue que mon expérience japonaise m'a fait découvrir ce que c'est que de circuler sur l'eau dans une mer remplie d'îles. Et c'est bien le cas de la mer Égée. C'est-à-dire que chaque fois qu'on quitte un port, on voit une île un peu plus loin, et on va d'île en île sur la mer, et chaque déplacement donne l'idée d'aller plus loin, et on comprend qu'une fois qu'on est sur un bateau, finalement, il n'y a qu'à attendre que le vent nous y pousse. Il faut savoir un peu manœuvrer, bien sûr, il faut avoir investi dans un bateau, mais on peut circuler extrêmement facilement et beaucoup plus reposé que sur la terre, puisque sur la terre, il faut se porter et il faut porter ses bagages, alors qu'ici, c'est le bateau qui le fait. Et donc, Paul se demande ce qu'il doit faire, et voilà qu'il est joui d'une vision. Et voici, nous sommes donc au verset 9 du chapitre 16 des Actes des Apôtres. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut debout qui lui faisait cette demande. « Passe en Macédoine et viens à notre secours. » À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à partir pour la Macédoine, car nous en avons déduit que Dieu nous appelait à y porter la bonne nouvelle. Ici, c'est un détail au passage, mais qui a sa valeur. C'est la première fois que dans les Actes des Apôtres, à ce verset 10 du chapitre 16, le narrateur dit « nous ». Et donc, nous comprenons que il y a non seulement Paul, Silas, Timothée, mais Luc, l'auteur des Actes. Très probablement, puisqu'il dit « nous », et qu'auparavant, il ne l'a pas dit. De Troas, nous avons donc gagné le large et filé tout droit sur l'île de Samothrace, puis le lendemain sur Néapolis. Néapolis est un port donc sur la côte de Macédoine. Ils ont donc fait un déplacement qui fait 2 journées de navigation. On navigue à peu près à 10 nœuds. Voilà, entre 6 et 15 nœuds suivant la direction du vent, c'est-à-dire 20 km/h. Donc il faut un certain temps, mais ça passe. Néapolis, et là il y a une petite barrière de montagne et une grande plaine derrière. Et cette plaine sur cette plaine passe une voie romaine qui est en fait la ligne directe entre Rome, Milan et ce qui deviendra bientôt la ville de Constantinople. C'est la Via Egnatia, mais nous sommes aussi au pied d'une montagne assez élevée, 1900 et quelques mètres, qui s'enneige bien en hiver et qui est une belle perspective vers le sud de cette plaine dans laquelle se trouve la ville de Philippe. Et cette montagne, le mont Pangaeon, était dotée de mines d'argent et d'or. Et elle a valu d'ailleurs des tentatives de colonisation de la part des Grecs et un certain nombre, elle avait son succès comme étant un lieu où on pouvait s'enrichir. On comprend donc que la ville de Philippe pouvait être une ville importante, donc nommée par Philippe de Macédoine, le père d'Alexandre le Grand. Donc nous sommes vers l'an 350 avant Jésus-Christ, lorsque ça se passe. Donc c'est une ville qui a au moins 350 ans d'âge et qui depuis a été aussi traitée comme une colonie romaine, c'est-à-dire qu'un certain nombre de vétérans, de légionnaires sans doute, se sont installés. Et c'est donc une ville à la fois romaine et grecque, macédonienne, ce sont les Grecs du Nord. Je crois que je vais me faire disputer si je dis les Grecs du Nord, mais enfin bon. Si Alexandre était grec, il était macédonien. Et donc c'est là que se dirige Paul. Ensuite, voilà, le lendemain sur Néapolis, et ensuite sur Philippe, qui est une cité du premier district de Macédoine et une colonie romaine. Alors maintenant, essayons de voir comment agit Paul et comment il est reçu. Et qu'est-ce que nous disent les Actes sur cela et le rôle de ceux qui vont le recevoir. Nous avons passé un certain temps dans cette ville, et le jour du sabbat, nous en avons franchi la porte pour rejoindre le bord de la rivière où nous pensions trouver un lieu de prière. J'ai eu la grâce effectivement d'aller à Philippe. La ville a été détruite depuis, on ne s'en étonnera pas en lisant la suite des Actes des Apôtres, par un tremblement de terre. Et donc la ville antique n'est plus habitée, et donc il y a des fouilles, donc on y voit quelque chose, enfin des ruines. Et puis à quelques distances, il y a effectivement un cours d'eau, qui a été légèrement aménagé. C'est vraiment une petite rivière aménagée à un endroit pour qu'on puisse imaginer ce que Paul a pu trouver, c'est-à-dire un lieu au bord de l'eau où il trouve des Juifs qui pouvaient pratiquer certaines ablutions et se réunir pour prier. Donc ça veut dire que c'était dehors. Est-ce qu'ils avaient une petite hutte? Est-ce qu'ils avaient simplement sous un arbre auprès de l'eau? Nous n'en savons rien, sans doute une certaine sobriété en tout cas, puisqu'on n'est pas dans la ville, ce n'est pas une synagogue, ce n'est pas une maison. Et là, alors que la règle connue aujourd'hui en tout cas, c'est que pour que les Juifs puissent célébrer un office synagogal, il faut un minya, c'est-à-dire au moins 10 hommes, eh bien, Paul ne trouve des femmes. Où sont les hommes juifs? On n'en sait rien. On n'en a aucune mention. On a simplement ici un groupe de femmes. Le jour du sabbat, nous en avons franchi la porte pour rejoindre le bord de la rivière où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis. Nous avons parlé aux femmes qui s'étaient réunies. De quoi ont-ils parlé? Ici, c'est intéressant parce que justement, Paul s'adresse à des femmes. Il n'est pas dans. Il a essayé plusieurs choses. Il a essayé de dire, peut-être à la suite d'Étienne, toujours vous résistez à l'Esprit Saint. C'était la prédication à Jérusalem. Et de stimuler donc les Juifs qui n'avaient pas reçu le Christ. Ou bien de faire presque l'impasse sur la mauvaise réception faite au Christ lui-même par ceux de Jérusalem en annonçant simplement ce que le Seigneur nous a annoncé, le Messie, voici qu'il est venu, et c'est Jésus de Nazareth. Et prêt à expliquer en quoi et comment et pourquoi Jésus est le Messie. Il est le Messie parce qu'il accomplit, il est le nouvel Adam. C'est Paul qui nous le dira. Il est en lui s'accomplit la création et en lui se rassemble tout. Et c'est pourquoi, pour moi, vivre, c'est le Christ. En tout cas, ici, il s'adresse à des femmes. Et l'une d'elles, nommée Lydie, une négociante en étoffe de pourpre, originaire de la ville de Thyatire et qui adorait le Dieu unique, écoutait. Le Seigneur lui ouvrit l'esprit pour la rendre attentive à ce que disait Paul. Ici, ce verset 14 du 16e chapitre des Actes des Apôtres nous décrit cette femme, nous n'en saurons presque pas beaucoup plus, sinon qu'elle va essayer d'accueillir et que ce sera elle que Paul quittera une fois qu'il partira. Mais nous sentons dans ce verset qu'une paix. Cette femme, une négociante en étoffe de pourpre, était sans doute habituée à des personnes d'une certaine aisance, car pour acheter de la pourpre, il fallait avoir une certaine aisance de vie. Elle était originaire de l'autre côté de la mer Égée, Thyatire, c'est à peu près à mi-hauteur de la Turquie, un peu à l'intérieur des terres, dans cette province d'Asie, dans laquelle Paul n'a pas pu aller évangéliser. Et Thyatire est l'une des cités citées par l'Apocalypse de Saint Jean, une des sept villes auxquelles s'adresse l'Apocalypse dans le commencement. C'est donc une femme qui a voyagé, c'est une femme qui est habituée à une certaine société, sans doute une certaine aisance, si elle est commerçante jusqu'ici, et qu'elle va écouter dans la simplicité, sur le bord de l'eau. Paul s'est adressé à ces femmes, et sans doute leur a-t-il parlé au cœur. En leur décrivant ce Jésus. Comment pouvons-nous deviner? Eh bien, nous le pouvons si nous nous rappelons que quelque temps après, Paul enverra une lettre aux habitants de Philippe. Et dans cette lettre, il y a ce passage si merveilleux, mais dont on a l'impression que Paul, ce passage est si bien balancé, si bien rythmé, y compris en grec et même en français, qu'on comprend que Paul le récite. Ce n'est pas un morceau propre à cette lettre, c'est quelque chose qui existe déjà. Voilà de quoi je vais vous parler, nous dit-il. Pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments, recherchez l'unité, ne soyez jamais intrigants ni vaniteux. Ici, nous entendons Lydie qui habille des gens importants. Ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts, mais pensez aussi à ceux des autres. Mais ce ne sont pas là des conseils simplement de bonne conduite. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé. Ayez les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, il ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il lui a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame « Jésus-Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père. Ainsi donc, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et profond respect. Ne le faites pas seulement quand je suis là, mais encore bien plus maintenant que je n'y suis pas. Car c'est Dieu qui agit pour produire en vous la volonté et l'action selon son projet bienveillant. Ici, il me semble que nous pouvons entendre la familiarité tissée entre Paul et Lydie, mais peut-être déjà la prédication de Paul lorsqu'il arrive à Philippe. Il a essayé de réconforter les frères d'Antioche, de Pisidie, de Lystre, de Derbé, d'Iconium. Il leur avait annoncé paisiblement que Jésus est le Messie, puis ensuite faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Et voilà qu'ici, il a continué en essayant d'aller l'annoncer, et il a été barré dans ses mouvements. L'Esprit de Jésus ne nous l'a pas permis. Et puis, il a été pris par la main, par ce songe, un Macédonien disant « Viens chez nous ». Et puis, de Macédonien, point. Seulement des femmes. Et encore, elles ne sont pas de Macédoine. Elles sont de la province d'Asie. Paul est ici comme déconcerté, mais aussi contraint d'aller dans la profondeur du mystère du Christ. Et c'est cette force et cette douceur qu'il pourra évoquer à nouveau dans sa lettre aux Philippiens. Et c'est sans doute cela, enfin en tout cas nous pourrons le penser, qui a touché Lydie. Une femme qui était, on le comprend, rien, elle ne ramène à rien de sa position. Elle est là au bord de l'eau, hors de la ville avec quelques autres. Elles sont venues pour prier. Paul s'est assis en douceur. Il les a écoutées puis leur a parlé. Il a parlé à leur cœur, à leur âme, à leur être profond. Le Christ Jésus est venu transformer notre humanité. S'il est le nouvel Adam, il faut aussi qu'il y ait de nouvelles Ève, qui accueille avec bienveillance ce qui vient du Seigneur, qui accueille l'accomplissement. Et mettons-nous à côté de Lydie. Lydie qui, dans un instant, va demander le baptême et ensuite accueillir Paul chez elle. Lydie qui accueille la parole de Paul au chapitre 16 des Actes des Apôtres et au verset 15. Quand Lydie fut baptisée et tous les gens de sa maison, elle nous adressa cette invitation. Si vous avez reconnu ma foi au Seigneur, venez donc dans ma maison pour y demeurer. C'est ainsi qu'elle nous a forcé la main. Ici, nous comprenons comment la foi de cette femme se rend tout de suite opérante et elle désire accueillir ceux qui lui ont porté cette bonne nouvelle, c'est-à-dire le Fils de Dieu est aussi devenu Fils de l'homme. Et nous sommes appelés, nous, fils d'homme, à devenir enfants de Dieu, à devenir frères de Jésus-Christ et à conformer notre vie dès maintenant à la vie de Jésus qui a été lui aussi un artisan et qui a marché sur nos chemins, qui a été reconnu comme un homme à son comportement. Et nous pouvons le comprendre maintenant, non seulement reconnu comme un homme, mais comme l'homme tel que le voit le Père, le Fils en qui le Père a tout son amour, en qui il peut se reposer. Et voici que celui qui accueille la volonté du Père fait sa demeure dans cette femme qui est rassasiée et qui n'est pas satisfaite des honneurs et du monde un peu clinquant qu'elle sert en étant négociante en tissu de pourpre. Elle avait quitté sa terre, peut-être pour vivre, mais aussi pour faire fortune, et voici que maintenant elle va découvrir cette profondeur et elle propose, elle offre sa demeure. Le Christ a fait sa demeure chez nous, elle offre sa demeure à Paul et à Silas et Luc. Et voici que la vie va s'organiser grâce sans doute au talent vivant de cette femme. Les femmes ont souvent cet art de la vie qui ne s'exprime pas par des formules ou par des organisations tellement décrites, mais par une réalité de la vie servie, soutenue et qui peut grandir. Et ce que nous suivons au verset 16, « Comme nous allions au lieu de prière, voici que vint à notre rencontre une jeune servante qui était possédée par un esprit de divination. Elle rapportait de gros bénéfices à ses maîtres par ses oracles. Comme nous allions au lieu de prière. » C'est donc devenu une habitude de s'y rendre régulièrement. Et là, Paul continue d'annoncer Jésus-Christ, de le faire connaître de l'intérieur. Cette servante se mit à nous suivre, Paul et nous, et elle criait « Ces hommes sont des serviteurs du Dieu Très-Haut, ils vous annoncent le chemin du salut. » Mais voici que cette proclamation tonitruante et fondée sur un pouvoir de divination n'est pas du tout ce que Paul cherche. Il ne veut pas attirer des gens qui sont attirés par l'extraordinaire. Il ne veut pas du tout que ceux qui écouteront la parole le fassent parce qu'ils ont fait la trouvaille de celui qui doit nous sauver, comme si c'était un des dieux porte-bonheur. Non, il faut que la proclamation se fasse par des gens qui suivent le Christ et qui se laissent façonner par lui, comme Paul est en train de l'apprendre depuis qu'il s'est mis à répondre à celui qu'il a rencontré sur le chemin de Damas. Et voici la suite, je saute ce passage qui n'a pour moi aujourd'hui pas un grand intérêt, et donc il chasse cet esprit, et cela provoque une réaction de ses maîtres qui attroupent la foule, et donc on accuse Paul. Les maîtres, voyant s'en aller l'espoir de leurs bénéfices, se saisirent de Paul et Silas et les traînèrent sur la place publique auprès des autorités. Ils les firent comparaître devant les magistrats en disant Ces gens troublent notre cité. Ils sont juifs et ils prônent des coutumes que nous n'avons pas le droit d'accepter ni de pratiquer, nous qui sommes citoyens romains. » Alors la foule se déchaîna contre Paul et Silas. Les magistrats ordonnèrent de leur arracher les vêtements pour leur donner la bastonnade. Après les avoir roulés de coups, on les jeta en prison en donnant au geôlier la consigne de les surveiller de près. Pour appliquer cette consigne, il les mit tout au fond de la prison avec les pieds coincés dans des blocs de bois, des entraves. Et voici où je veux en venir. Verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les autres détenus les écoutaient. Quel étonnement! Au milieu de la nuit, ils ont été battus. On apprendra un peu plus loin que leurs plaies n'ont pas été lavées. Ils sont dans l'obscurité, au profond de la prison. Ils ont les pieds bloqués dans des ceps de bois. Ils prient et ils chantent les louanges de Dieu. Dans la lettre aux Philippiens, nous aurons au chapitre 4 et au verset 4. Soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je le redis, soyez dans la joie. Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Ce que Paul nous décrit dans sa lettre, ce qu'il propose et qu'il offre comme perspective aux Philippiens, n'est-ce pas ce qu'il était en train de vivre et que nous décrit si sobrement ce verset 24, 25 du 16e chapitre des Actes des Apôtres. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les détenus se détachèrent. Le geôlier, tiré de son sommeil, vit que les portes de la prison étaient ouvertes. Croyant que les détenus s'étaient évadés, il dégaina son épée et il était sur le point de se donner la mort. Il était en effet responsable sur sa vie de la présence des prisonniers. Et plutôt que de se faire mettre à mort avec honte et opprobre et peut-être torture, il préfère se jeter sur son épée. Mais Paul se mit à crier d'une voix forte, « Ne va pas te faire de mal, nous sommes tous là !» Ayant réclamé de la lumière, le geôlier se précipita et tout tremblant se jeta aux pieds de Paul et Silas. Pourquoi le geôlier, dès qu'il a mis de la lumière, se jette tout tremblant aux pieds de Paul et Silas? Est-ce simplement parce qu'il y a eu un tremblement de terre et qu'il pense que ce sont eux qui ont provoqué ce tremblement de terre? Mais alors, puisqu'ils sont des prisonniers, si ce sont eux qui ont provoqué ce tremblement de terre, ou pour eux que les dieux ont agité la terre, ils devraient être sortis, ils devraient s'être libérés, puisqu'on nous dit que tous les liens de tous les détenus se détachent. Les portes sont ouvertes. Comment se fait-il que ces hommes soient encore là? Est-ce cette crainte révérentielle, ce sens du terrible qui met le geôlier aux pieds de Paul et Silas? Il les emmena dehors et leur demanda: « Que dois-je faire pour être sauvé, mes seigneurs ?» Ils lui répondirent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Ce geôlier qui voit ces hommes qui sont restés dans la prison, qui chantaient les louanges de Dieu alors qu'ils étaient dans les fers, qu'a-t-il reconnu? Est-ce la force d'un Dieu terrible ou la douceur d'un Dieu qui transforme le cœur des hommes, qui les rend à son image, doux, humbles, s'abaissant jusqu'à souffrir, et dans cette épreuve, ayant les yeux tournés vers le Père, de qui vient tout don parfait. des hommes pour qui vivre, c'est le Christ, pour lequel la liberté est déjà complètement acquise. Ils n'ont pas besoin de sortir de la prison, ils sont libres. Ils sont des hommes vivants. N'est-ce pas cela que le geôlier, qui ne nous donne pas son nom, et fait-il partie de ces quelques noms qui nous sont cités dans la lettre aux Philippiens, ou non, nous ne le saurons pas. Mais ce que nous comprenons, c'est que quelque chose de grand s'est passé dans le cœur de ce geôlier. Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui vivaient dans sa maison. Et nous remarquons comment la seule parole qui est dite ici, c'est « crois au Seigneur Jésus ». C'est-à-dire, c'est tout le mystère du Christ qui est présenté là. Il ne s'agit pas simplement de croire, fait la profession de foi, dit « Jésus est mon sauveur ». Non, il s'agit de quelque chose de bien plus profond. Il s'agit de changer toute la référence de ton être. Désormais, ne désire qu'une chose, c'est être semblable au Seigneur Jésus. Et tu viens de le voir comment il est, doux, humble, d'une liberté intérieure, reine, qui ne se soucie pas ni des ceps, ni des portes de prison, ni de la nuit, et qui est tourné vers le Père pour lui rendre grâce. Et cette croix au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Dès le principe, si tu accueilles le Christ, ce n'est pas seulement toi, mais c'est toute ta maison qui en bénéficiera. Oui, l'accomplissement qui est réalisé dans le Christ, c'est un accomplissement qui est dynamique. C'est ce que le Seigneur fait depuis le commencement, quand il choisit et quand il élève à la dignité de proche de lui quelqu'un, c'est toujours non seulement pour lui, mais pour ceux qui l'entourent, et même pour toutes les nations. Et voilà que ce geôlier se met à laver leurs plaies, comme Jésus qui a lavé les pieds de ses disciples. Le mouvement de l'Esprit-Saint lui est donné, ce mouvement qui est dans le Christ Jésus. Et ensuite, ils furent baptisés, lui et toute sa famille. Alors même en pleine nuit, le geôlier les emmena pour laver leurs plaies. Aussitôt, il reçut le baptême avec tous les siens. Il fit monter chez lui Paul et Silas, préparer la table, et avec toute sa maison, il laissa déborder sa joie de croire en Dieu. Soyez toujours dans la joie du Seigneur, Philippiens 4:4. Je le redis, soyez dans la joie. Ne soyez inquiets de rien. Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. En toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Oui, il n'y a rien d'autre à désirer que d'être gardé dans le Christ Jésus. Voilà, il m'a semblé que ces deux personnages dont nous savons si peu, simplement Lydie reparaît ensuite lorsque les apôtres sont sortis de la prison. Ils ont demandé à ce que les magistrats viennent les chercher, mais une fois sortis de la prison, Paul et Silas entrèrent chez Lydie. Ils virent les frères et les réconfortèrent, puis ils partirent. Et voilà qu'ils vont poursuivre leur chemin vers Apollonia, Amphipolis, Apollonia, Thessalonique, Bérée, puis Athènes et Corinthe. Oui, c'est le visage du Christ, un Christ qui est l'accomplissement de l'humanité, qui est, semble-t-il, dévoilé à Philippe, cette première ville d'Europe, dévoilée à une femme, dévoilée à un homme. Dévoilé à une femme qui a l'habitude des gens riches, dévoilé à un homme qui a l'habitude des moins que rien, de ceux qui ont été condamnés ou qui vont l'être. Et ces deux sont touchés par l'abaissement du Fils de Dieu, par la paix rayonnante de Paul, Silas, Timothée, Luc. Et touché par cela, il va l'un comme l'autre accueille Ils accueillent eux et toute leur maison. Ils accueillent et ils ouvrent leur demeure à ceux qui leur apportent cette lumière qui est désormais leur salut. Ce n'est pas un salut tonitruant, c'est simplement la transformation complète de leur vie. C'est simplement que désormais pour eux, vivre, c'est le Christ.